Supermarché bio.
Silence d'église. On n'est pas chez Chopi.
Un quart de pain, s'il vous plaît.
Quelle sorte?
Avec de la mie à l'intérieur.
CO2, mon amour.
Sésame, sarrasin, blé dur, quatre céréales.
Prends un Big Mac et un Coca, connasse.
Denis Chessou.
Ah, tu sors de là, t'as qu'une envie, un bon steak aux hormones, arrosé de ketchup, des mômes qui pleurent, des tables qui collent, la vie, quoi!
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement, si. À la technique, il y a Lucas Vaillant et Valentin Hazan, et puis assisté de Claire Destacan, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission, je n'oublie pas non plus Albert Hook. Bon, allez, une petite humeur. Oui, une petite humeur. Parce qu'il y a à peine un mois, je vous annonçais que ce brave Roundup ne faisait plus l'unanimité au sein de la Commission européenne. Alors certains États membres, certainement jaloux des succès commerciaux engrangés par Monsanto, cherchaient querelle à cette mignonne molécule, qui ne fait que son boulot dans nos rayons de campagne, à savoir éradiquer tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un brin d'herbe, et que le glyphosate était cancérogène, et qu'il vous polluait les nappes souterraines, et qu'il se retrouvait dans la chaîne alimentaire, et que dans le sang des citoyens, etc., etc. Calomnie que tout ceci. D'ailleurs, le Parlement européen ne s'y est pas trompé, car les eurodéputés viennent d'adopter une résolution proposant le renouvellement pour 7 ans de l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate. Ouf ! Le petit commerce respire à nouveau. Car franchement, imaginez une seconde les conséquences d'un retrait de l'autorisation de mise sur le marché pour le glyphosate. Ouh là là ! Que le signal aurait été mal perçu outre-Atlantique alors que des négociations parfaitement opaques sont en cours entre l'Europe et les États-Unis pour le fameux traité de commerce, le TAFTA. Allez vendre ne serait-ce que la queue d'un Airbus si vous refusez en retour de vous empiffrer avec le délicieux glyphosate de chez Monsanto. En tout cas, nous voici rassurés, le Parlement de Strasbourg n'a peut-être pas parfaitement intégré la nécessité de protéger la santé et l'environnement des Européens, mais en tout cas, il possède bel et bien la base du commerce. Alors au menu de cette émission, il y aura de la Guadeloupe, oui, parce que à la Guadeloupe, vous avez un Terra Festival, excellent festival d'environnement, j'y reviendrai, et donc c'était l'occasion aussi de rencontrer une femme qui est maraîchère bio, et puis il y aura Laurent Chevalier, le docteur Laurent Chevalier qui va nous parler de viande reconstituée, et ça vous allez voir, c'est tout à fait intéressant de voir ce qui peut nous menacer dans quelques instants Arnaud Gossement, et puis vous, cher Frédéric Denré, bonjour Frédéric.
Denis.
De quoi allons-nous parler Frédéric?
On va parler d'éoliennes, de MBT, de SAM, d'OGM, de SAU, de SAFER et de gènes CRISPR.
C'est ça. Donc des acronymes, quoi. On va essayer de...
Non, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer.
Bon, ça va très bien se passer. Et puis, Arnaud Gossement, je vous en ai parlé, on va le rejoindre tout de suite, avocat environnementaliste, qui d'ailleurs travaille actuellement pour l'association Collectif pour le futur du site de Grignon. Autrement dit, vous avez le PSG et les Qatar d'un côté, Et puis, de l'autre, vous avez les établissements de l'INRA, que l'État cherche à vendre. Il devrait peut-être y arriver, mais en tout cas, ça résiste. Ouais, 700 hectares en terrain de foot pour entraîner le PSG. La biodiversité, à mon avis, va en prendre un coup. Alors, Arnaud Gossement, là, on va parler avec vous de la loi de transition énergétique qui a du plomb dans l'aile. C'est un des textes les plus importants du quinquennat, dixit François Hollande, loi promulguée en août 2015 et qui est donc censée ouvrir une nouvelle voie avec plus de sobriété, plus d'énergie renouvelable, moins d'atomes, moins de fossiles. Donc tout ce qui ne convient pas à EDF qui est actuellement dans le dur. Alors pour appliquer cette loi, il faut un texte réglementaire, ce qu'on appelle la PPE. Bonjour Arnaud Gossement, la programmation pluriannuelle de l'énergie, où en est-on?
Bonjour Denis. Oui, vous avez tout à fait raison. La programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est le nom donné à la feuille de route que la France doit se donner pour atteindre la transition énergétique. Ce qui veut dire moins consommer d'énergie, mieux consommer d'énergie et plus diverse, pas que du nucléaire ou du pétrole. Mais voilà, le décret qui doit définir cette feuille de route est reporté et encore reporté, à tel point d'ailleurs que le gouvernement, très récemment, cette semaine, vient de soumettre au Conseil supérieur de l'énergie un texte qu'on appelle la PPI. C'est le nom de l'ancienne feuille de route dont la France s'était dotée en 2009. Mmh. C'est-à-dire que plutôt que d'appliquer la loi sur la transition énergétique, en fait, le gouvernement a préféré modifier à la marge les objectifs fixés en 2009. Donc évidemment, c'est assez décevant. Ça ne règle pas du tout la question du nucléaire. Ça ne fait qu'augmenter les objectifs des énergies renouvelables. C'est bien, mais pas du tout suffisant.
Non.
Et puis surtout, contrairement à ce que le chef de l'État a l'air de dire, il n'est pas certain qu'en augmentant la production d'énergie renouvelable, mécaniquement, on baisse la part du nucléaire dans la production d'électricité. Alors Ségolène Royal est montée au créneau pour dire, rassurez-vous, elle sera bien publiée avant le 1er juillet. Donc rendez-vous, hein, avant le 1er juillet, pour savoir si enfin la France applique la loi de transition énergétique et publie cette feuille de route qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Qu'est-ce qui freine ? C'est quoi, là ? On est sur le lobby nucléaire. Qu'est-ce qui l'emporte derrière ?
On est très clairement sur un problème lié au nucléaire. Il ne vous aura pas échappé que la santé financière des acteurs du nucléaire aujourd'hui n'est pas au beau fixe.
Non.
Et le véritable problème dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est le fait qu'elle doit être fondée sur des études d'impact préalables, et notamment une qu'on appelle le scénario des besoins énergétiques, qui doit évaluer quelle sera notre consommation d'électricité dans les années à venir. Et malheureusement, ce scénario pourrait révéler que notre demande d'électricité, d'énergie en général, pourrait ne pas augmenter, voire baisser. Voilà qui ne fait pas les affaires, évidemment, de l'énergie nucléaire, qui a besoin, au contraire, d'une augmentation de notre consommation d'électricité. L'énergie nucléaire n'incite pas beaucoup à la sobriété. Et donc, voilà, le gouvernement qui est un petit peu en difficulté, qui se dit, si je ne sors pas cette programmation pluriannuelle de l'énergie, ben, j'applique pas la loi de transition énergétique, l'une des lois les plus importantes du quinquennat, pourtant, mais si je la sors, je risque de fragiliser un petit peu plus le secteur nucléaire. Donc, il est à peu près entre deux feux, et on va voir effectivement avant l'été si enfin on passe à la transition énergétique.
Alors ça c'est pour le mois de juillet. Si on est du côté de fin juin, on peut penser aussi à Notre-Dame-des-Landes avec donc ce fameux référendum qui toucherait uniquement la Loire-Atlantique. Qu'est-ce que l'on peut en dire aujourd'hui ? C'est quand même très compliqué d'un point de vue juridique, mais trois petits points.
Alors c'est effectivement très très compliqué d'un point de vue juridique. Rappelez-vous, le chef de l'État avait annoncé à la télévision un référendum sur le projet de Notre-Dame-des-Landes. Problème, aucun texte ne permet d'organiser ce référendum. Du coup, le gouvernement a bricolé très rapidement un nouveau texte pour essayer de créer une nouvelle procédure de référendum, qu'on appellera consultation locale. Mais voilà, le Conseil national de la transition écologique, qui réunit les représentants du patronat, les associations, les représentants des élus locaux, à l'unanimité, cette commission a dit, bah non, ce texte ne va pas, il faut le refaire. Donc le gouvernement aujourd'hui n'a toujours pas le texte qui permet d'organiser cette consultation locale, pourtant annoncée pour le 26 juin, c'est-à-dire demain. Autre problème, est-ce que ce texte convient au Conseil d'État, c'est-à-dire aux juristes de cette instance qui est la plus haute juridiction française ? Eh bien, le Conseil d'État devait rendre un avis cette semaine, mais il a toujours pas été rendu public. Si le Conseil d'État, à son tour, déclare que ce texte n'est pas légal, eh bien, très clairement, le gouvernement va avoir des soucis pour organiser cette consultation locale. Au demeurant, consultation locale ou pas, Ségolène Royal a déjà annoncé que, quelle que soit la réponse des électeurs de Loire-Atlantique, les travaux ne pourraient pas commencer. On peut donc se demander, un, si cette consultation locale sera un jour organisée, et puis deux, à supposer qu'elle soit organisée, à quoi sert-elle ?
On va prendre le train, ou presque, entre Poitiers et Limoges. On peut le prendre jusqu'à présent, mais là, on va parler de TGV, parce que donc, il y a une déclaration d'utilité publique qui vient de tomber sur la ligne Poitiers-Limoges.
Alors, il faut rappeler que le 10 janvier 2015, le Premier ministre Manuel Valls, par un décret, a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de cette ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges, qui est très controversée et suscite beaucoup d'opposition sur place. Et effectivement, les opposants ont formé un recours en annulation de cette décision du Premier ministre, et le Conseil d'État vient de leur donner raison, nouvelle épine dans le pied du gouvernement du point de vue de l'environnement. Le projet est donc aujourd'hui au point mort. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a été si sévère avec la déclaration d'utilité publique qu'on peut se demander si le gouvernement pourrait en prendre une nouvelle. Donc, en tout cas, pour plusieurs années, ce projet de LGV est effectivement enterré.
Merci à vous, Arnaud Gosman, pour ce décryptage. Autre décryptage dans quelques instants avec Frédéric Danhuet sur d'autres parties de l'information, de l'actualité, et puis aussi notre petite virée du côté de la Guadeloupe. Louise attaque. Ah ben, il faut ça pour l'environnement. Oui, il faut attaquer, Louise.
Si seulement j'avais avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière. Savoir où poser ses lèvres ou ses pensées, si seulement j'avais, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux. Avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec le temps.
Oui, c'est bien votre histoire d'environnement, la continuez à environner, nous on sera toujours contents.
Ah ben venez, on vous suit, vous savez, on est prêts à vous pousser au derrière.
Un film d'environnement, allez-y,
oui, hop, allez, hop là.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Voilà, voilà. En direct sur France Inter avec vous, Frédéric Danhué, là aussi, outre décryptage, parce qu'on a eu, alors, on a eu des OGM et qui n'en sont pas véritablement aussi cette semaine, dont inquiétude et controverse sur ce sujet et cette association de la société civile, à savoir les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne, la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, France Nature Environnement, Greenpeace, le Réseau Semences Paysannes et l'Union Nationale de l'Apiculture Française a démissionné de l'instance qui est le Haut Conseil des biotechnologies. On a envie un petit peu d'en savoir plus, donc décryptage sur cette actualité, Frédéric.
Oui, Denis, ce Haut Conseil est en train de réfléchir à est-ce qu'il faut, parce que l'Europe y réfléchit également, est-ce qu'il faut considérer les New Breeding Techniques, les nouvelles technologies de reproduction. Attention, Denis, ça ne nous concerne pas, ça ne concerne que les plantes. Donc, est-ce qu'il faut considérer cette nouvelle façon de modifier le patrimoine génétique des plantes de la même façon que les OGM? Alors, les OGM, faut imaginer qu'on fait rentrer quelque chose à la masse dans un ADN. On prend un ADN, on prend un gène étranger d'une autre espèce et on va le mettre, on va l'intégrer. Hein, vous connaissez la technique.
Prenez un gène de poisson, le mettez dans une fraise et la fraise c'est nager, quoi.
C'est ça. Et le poisson a le goût de fraise. Je ne sais pas. Bon, là c'est autre chose. Là on est sur du point de croix, on est sur la broderie, sur la dentelle. C'est plus du prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'on a des outils extrêmement précis. Donc qui font partie de ces NBT, hein, c'est beaucoup d'outils différents qui permettent de couper l'ADN au nucléotide près, c'est-à-dire au micron, quoi. C'est-à-dire, on va retirer atome par atome, molécule par molécule.
Vous dites qu'on n'est pas concerné, c'est-à-dire que là, donc en plus c'est une invention française, hein, me semble-t-il, on a quand même une.
Alors c'est franco-américaine. Effectivement, c'est Emmanuel Charpentier qui avait été formé à Pasteur, oui. Avec Jennifer Doudna et Feng Zhang, voilà deux chercheurs américains. Publication faite dans Science en 2012 et ça a totalement révolutionné le monde de la génétique parce que si vous voulez, bricoler un ADN, que ce soit par la transgénèse ou que ce soit par les techniques classiques, hein, qu'on appelle les nucléases, qui permettent de couper l'ADN, c'est des techniques de, pardonnez-moi, de bourrin. On y va vraiment à la masse. Mmh. Là, c'est du extrêmement fin. On est capable, pour un coût très faible et pour un temps passé beaucoup plus faible, beaucoup plus court que ce que l'on faisait par exemple avec les OGM, avec la transgénèse, de retirer le gène affecté par exemple à une maladie orpheline et de le remplacer par une copie du gène ou du bout du gène. Vous voyez,
voilà. Donc on est ça peut être quand même assez formidable pour les maladies orphelines, on est bien d'accord.
Enfin, les chercheurs sont comme des fous quand vous les interrogez. Oui, pour eux, c'est un, ils disent que c'est un tsunami, que c'est une révolution, c'est une nouvelle étape de la génétique, et on peut gager que notre ami Emmanuel Charpentier aura sera une bonne candidate au prix Nobel dans quelques années. Mais évidemment, avec cette technique très peu coûteuse, parce qu'on trouve notamment, on a entendu parler avec le gène CRISPR, qui fait partie de ces nouvelles techniques de reproduction, qui a défrayé la chronique très récemment. Pourquoi ? Parce que ce gène, qui a été mis en évidence donc par Emmanuel Charpentier, permet tous les fantasmes. On en trouve, j'en ai vu ce matin, à 200 dollars sur le marché américain. Donc on peut utiliser ces techniques pour faire un peu ce que l'on faisait en modifiant les plantes, mais pour un coût beaucoup plus faible. Mmh. Alors, en théorie... Alors,
la panique actuelle, là, c'est quoi donc,
la panique actuelle, c'est que, en théorie, ces techniques sont tellement fines qu'elles ne laissent aucune trace. Mais parce qu'elles ne laissent aucune trace, il n'y a plus aucune traçabilité possible. C'est-à-dire, vous, demain, vous allez manger des céréales qui ont été modifiées par ces nouvelles techniques, vous ne pourrez pas savoir qu'elles ont été modifiées. Et puis surtout, même si certains scientifiques disent que, comme ça ne laisse pas de trace, comme on est vraiment sur du très précis, si vous avez modifié un gène, vous n'en avez pas modifié d'autres en cascade. Or ça, personne n'est capable de le dire. Or, c'est le gros problème.
C'est-à-dire qu'on ouvre une boîte de Pandore, comme pour les nanotechnologies, etc.
Exactement. Enfin, c'est-à-dire que personne n'est capable de dire, malgré cette technique ultra précise, de dire si la modification de ce gène ne va pas en modifier d'autres. Et donc, le principe de précaution devrait s'appliquer pour, en attendant de voir, de considérer ces nouvelles techniques comme la transgénèse, donc de considérer ces nouveaux produits comme des OGM, en attendant de voir si les risques sont les mêmes.
D'où cet émoi, entre guillemets, donc cette semaine. Nous allons partir à un endroit où là, ça se pratique pas encore, parce qu'on va être vraiment dans le bio. On va partir à la Guadeloupe, rencontrer une maraîchère et sa mère assez formidable.
La balade de Denis Chessou.
Je suis maraîchère et vivrière parce que effectivement en Guadeloupe, je ne me suis pas spécialisée puisque je fais beaucoup d'associations de culture et en plus mon exploitation est morcelée sur 3 communes. Chaque parcelle a ses cultures qui lui sont propres et ce qui permet qu'on puisse rentabiliser, pas vulgairement, tous les niveaux du sol.
Alors là, on est dans votre potager. Que nous présentez-vous ?
Les aubergines, bélangères en créole, on dit. Nos fameuses aubergines vertes, allongées, et puis surtout celles qui sont rondes. On a aussi des pichangas, des gourdes. Je fais quand même pas mal de piment végétarien parce que je fais du pain de piment végétarien. Mmh. Là, on a nos fameuses tomates cerises cocktail, les toutes petites minutes. Là.
Je vais l'alléger d'une cerise. Allez, hop. Donc. Cuisse au niveau du goût, c'est incroyable. On va saluer nos amis des Antilles, que ce soit de la Martinique ou de la Guadeloupe. Ils sont déjà réveillés en général à partir de 6h du matin. Là, ça y est, c'est fait. Les grenouilles ont terminé de chanter, c'est formidable. Et donc, nous sommes à Grande Terre. Nous sommes donc en Guadeloupe, nous sommes à Mornalo avec Yvelle Attali-Snell, qui a eu une fille qui a été allergique à certains produits. Et elle s'est tournée vers le bio, donc maraîchère bio, et aussi bien sûr pour gagner sa vie en produisant donc sainement. Dans une île où, faut le dire, l'écologie n'a jamais été une priorité. Agrandissement ravageur du port de Pointe-à-Pitre pour y faire entrer encore plus de containers en provenance de Panama. 3000 chasseurs qui font pas mal de dégâts. Projet de télésiège absolument dément sur le volcan de la Soufrière. Des voitures en veux-tu en voilà. Et lâcher de déchets n'importe où, qui est une quasi-institution dans cette île. Alors ça, c'est pour le côté négatif. Pour le côté positif, c'est une île évidemment de toute beauté, au cœur des petites Antilles, qui est sortie du ventre de la Terre il y a 4 millions d'années. Autrement dire que la Guadeloupe est une jeunesse. Et on peut dire que si on est tous des poussières d'étoiles, les forêts tropicales, là-bas, ce sont les filles des volcans. et des alizés porteurs d'eau, surtout évidemment sur Basse-Terre cette fois. Nous on revient donc à Grande-Terre et je vais rencontrer Yvette Latanisnel lors du Terra Festival, qui est sûrement ce Terra Festival une des manifestations de fond les plus utiles à cette île. Et en ce moment c'est le 13e Terra Festival qui est porté par des femmes. Martine Sornet et son équipe de bénévoles ont créé ces rencontres annuelles qui sont pédagogiques, amicales, cinématographiques et très festives. Et sur le terrain, il y a une trentaine d'agriculteurs bio qui ne se résignent pas et qui tracent un autre sillon, car comme on le dit avec pas mal d'espoir et de malice dans ce pays, qui souffre hier ne souffrira pas forcément demain, c'est très amusant. On rencontre donc avec Yvelle et avec sa mère, Ivana. Et il y a de l'eau, il y a du soleil, et donc ça donne.
Oui. En fait, on a une terre qui est très généreuse de base, mais avec une pression parasitaire qui est
forte.
Qui est beaucoup plus forte qu'en métropole, mais c'est dû très certainement au fait qu'on n'ait pas le gel.
Oui, Donc, du coup... Il n'y a pas d'éradication de la vermine.
Donc, toute l'année, il faut essayer d'associer le maximum possible des plantes.
Oui. Qui vont se soigner entre elles.
S'entraider pour pouvoir lutter contre la pression parasitaire.
Et avec l'épisode donc du chlordécone qui, malheureusement, on le sait, donc va contaminer les sols entre, on va dire, 1-2 siècles jusqu'à 6 siècles, ça dépend donc des endroits, qui permettait de lutter contre le charançon, mais qui a fait des ravages terribles. Non. Et puis, l'épandage aussi sur les bananeraies qui maintenant est interdit. Là, c'est pour lutter contre les champignons, donc on balançait des fongicides. Est-ce que vous avez une terre qui a réussi à ne pas être contaminée?
Oui, c'est pas toutes les terres de Guadeloupe qui sont contaminées, comme le prétendent certains.
Non. On a en gros tout le croissant, on va dire, du sud, de
Basse-Terre. Basse-Terre a effectivement été contaminé et ça représente entre 5 à 7% des terres agricoles.
Puis il y a aussi une partie, ça paraît complètement dingue, il y a une partie aussi donc là où on est de Grande-Terre, où il y a aussi de la bananeraie, davantage vers le nord.
Oui.
Et on est obligé de l'irriguer, ça va prendre de l'eau.
Voilà, on prenait de l'eau polluée pour irriguer.
C'est de la folie quoi.
Pour irriguer la zone non Grande Terre, et donc l'eau a pollué une partie de cette zone.
Et là, vous êtes préservé.
À Mornalo, bon, je suis tranquille. On n'a pas. En plus, je cultive beaucoup avec l'eau pluviale. Et en fait, quand les colons sont arrivés pour cultiver la canne, justement, ils ont fait creuser à main d'esclaves le canal des retours, et justement ce canal a permis de drainer tout cet espace. Donc j'ai une très très faible pression parasitaire ici. Attention, la vache qui arrive.
Ça veut dire qu'il faut se planquer.
Oui, il faut se planquer.
Parce qu'elle a un certain caractère, la vache, j'ai bien compris. voilà, elle ne me connaît pas, donc...
Ben oui, elle ne maîtrise pas trop.
D'accord. Voilà.
Donc on va pas trop la stresser.
Elle est passée. Alors, ce qui est très bien, c'est que vous avez en fait remis en place ce système agropastoral qui est vraiment le travail de nos ancêtres. Ce cycle qui n'est pas cassé entre l'engrais naturel qui arrive par les animaux. Et puis donc ce fumier, tout ce travail que vous effectuez, ce compostage aussi, parce que vous avez une petite unité de compostage
qui est justement, c'est là où se trouve l'atelier de naissance de mon exploitation. Et
c'est joli parce que vous dites l'atelier de naissance, c'est quoi cette nurserie?
Exact, mais c'est effectivement là qu'on fait toutes les graines, qu'on sauvegarde des semences.
En termes de légumes, vous en avez combien de différents, là, comme ça?
35.
Ah oui, quand même. Vous êtes un petit conservatoire, un botanique à vous toute seule, là. Hein.
Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est dû au travail familial. Hein. Maman qui s'occupe de tout ce qui est atelier de naissance. Et mon mari qui fait tout ce qui est facturation, chiffres.
Ah oui, d'accord, lui il fait ça, mais et puis celle qui se baisse, c'est votre mère et c'est vous, quoi.
Ah non, mais tous les soirs, il emballe, tous les soirs.
Ah, quand même.
Non.
D'accord.
Ah, c'est un bosseur, hein, c'est un bosseur.
Non, mais je doute pas, mais c'était la répartition des tâches qui m'étonnait un peu.
Ah ben, non, mais elle est très bonne, moi je trouve ça excellent.
Alors Ivana, en fait, il y a une transmission qui s'opère sacrément avec votre fille.
Oui.
Et oui, il y a tout un savoir-faire que vous avez transmis.
Il faut dire que mes enfants ont toujours vécu dans une ambiance...
naturellement maraîchère.
Voilà, et un environnement quand même un peu propre. Alors donc, elle a quand même gardé en mémoire tout ce que je faisais. Et donc, quand elle a décidé de se mettre au bio, de passer à l'agriculture, donc elle s'est rappelée un petit peu de ce que je faisais. Et puis moi-même, je l'ai un peu poussée, si vous voulez.
Et vous l'avez hérité de qui, vous, cela ?
Eh bien, moi, c'est de mes parents adoptifs, mère et père adoptifs. Et eux, ils avaient toujours leur jardin. Ils faisaient de l'élevage. Donc, le matin, on avait toujours du lait frais. Et même quand j'allais au jardin... Quand il triait, j'avais le lait à la mamelle. Et donc, je voyais tout ce qu'il faisait. Il ne faisait pas du compost comme je fais. C'est-à-dire que moi, j'en fais en plus grande quantité. Mais j'ai vu comment ils réalisaient leur... Alors, en ce temps-là, on disait fumier. Parce qu'ils attachaient leurs bêtes sur les piquets. Et ils avaient quand même le fumier. Qu'ils pouvaient utiliser pour le jardin.
On bouclait les cycles.
Et en plus, dans le jardin, ils avaient toujours la manie de stocker tout ce qui est feuillage, branchage et tout. Et je me suis rendu compte qu'à la longue, ça donnait un terreau, si vous voulez, bon, ce qu'on appelle compost. Donc, je n'ai pas hésité à un certain moment à le faire.
On va laisser la vache passer.
Oui, tu ne l'avais pas vue.
Ouais.
Allez, passe la biquette, oui d'accord.
Ne te stresse pas, chérie.
Ne t'inquiète pas, c'est la radio. Elle fait un peu taureau de combat. Alors elle, on lui a laissé les cornes, parce que vous avez encore cette chance d'avoir des vaches avec des cornes.
Oui, oui. Oui, voilà. Oui, bon, on les laisse. Voilà, ça y est, oui, ça elle est passée. Passé.
Bon, on est sur une île. Quand même, c'est assez incroyable parce qu'on pourrait sûrement développer beaucoup plus la culture vivrière, que sa nourriture va dépendre à 80% donc des containers qui arrivent aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est en train d'évoluer. Est-ce que de ce côté-là, on peut arriver à davantage de surfaces qui seront dédiées donc à la nourriture ici en Guadeloupe ?
Oui, je pense que en fait, je crois que au niveau de la Guadeloupe, les gens prennent conscience qu'il faudrait un peu penser à soi-même et diminuer la production d'export.
Oui.
Parce que c'est vrai que...
Oui, alors à la fois d'importation pour se nourrir soi et d'exportation pour la canne à sucre et pour la banane.
Oui. Parce que la plupart des terres agricoles, c'est à vocation banane, canne, culture d'export.
Oui.
Et donc de plus en plus, la culture vivrière gagne du terrain. Et donc il serait peut-être temps, puisque c'est vrai qu'avec les quotas qui nous sont imposés ici... Les gens ont plutôt tendance à aller faire de la canne et de la banane.
Ivana, c'est pas un rêve. On pourrait quand même nourrir une bonne partie de la population sans forcément importer autant de produits ici.
Je pense que oui. Nous pouvons essayer d'en produire le maximum. Par exemple, les citronniers en ce moment... sont atteints de maladies. Traitons-les, coupons-les, faisons ce qu'il y a à faire, recommençons à planter, plantons des arbres fruitiers, plantons aussi tout ce qu'il y a à manger, tout ce qui sort du sol, là où nous pouvons en planter, et comme ça, bon, la Guadeloupe pourra, je ne dirais pas pourra se nourrir, se suffire à elle-même, mais je crois que nous allons déjà apprendre à nos enfants à manger ce que nous produisons, ce qui n'est pas toujours le cas. Même les bébés, il faudrait qu'on arrive à un certain moment à faire des petits pots, pourquoi pas, avec l'igname, avec la madère, avec la malanga, tout ce que nous plantons ici, pour que dès la base, que nos enfants aient le goût de ce que nous produisons.
Mmh.
On a assez souvent de grands terrains, nous voyons beaucoup de gazon, je ne suis pas contre. Mais je dis qu'avant, chaque parent avait au moins un oranger devant sa porte. Et parfois, on trouvait des champs de groyavier. Pourquoi nous ne pouvons pas arriver quand même à ce stade?
Ça pourrait être, dans notre rêve absolu, la Guadeloupe, sur le papier, pourrait être un petit laboratoire du développement soutenable, en fait, dans l'absolu.
Oui, non, mais voilà. C'est pour ça que moi, je me suis toujours battue sur le long terme, ouais. Justement pour que... Peut-être c'est une utopie, là, 100% bio, mais je pense qu'on peut le faire ici, parce qu'on a les plantes médicinales qui nous permettraient aussi de lutter favorablement contre la pression parasitaire et des variétés quand même de sauvegarde qui nous permettraient de limiter le nombre d'intrants chimiques qu'on utilise. C'est quand même dommage d'arriver à encore de plus en plus importer des intrants chimiques. On n'est pas contre la banane, c'est pas la banane contre le bio. Il faut que les deux fonctionnent de pair et que la banane, les bananiers aux Antilles, arrivent à faire une banane de plus en plus la plus propre possible. Il serait peut-être temps qu'on se réveille et qu'on arrête justement cette envie de vouloir tout mettre en intrants chimiques. C'est pas possible. Ouais. On marche sur la tête. Attention la vache.
Oui. Ah, c'est pas la même.
Là, c'est un petit taureau là.
Un petit taureau, oui, mais ouais. C'est pas mieux. D'accord. Okay. Oui, belle couille. Oui.
Ouais.
Vous êtes là sur votre petit coin de planète ici en Guadeloupe, en ne polluant pas la terre, en essayant de la rendre la plus saine possible, dans un univers, on va dire mondial, où c'est quand même globalement l'inverse, quoi. Mais c'est pas grave. Ce que vous dites aussi aux gens, c'est possible de changer, c'est possible d'essayer autre chose.
C'est possible, c'est très possible. Je crois que si chaque personne essaie de faire de son mieux, la Guadeloupe ira bien, très très bien. Et ça, je vous dis bien que j'ai mal au cœur de voir quelqu'un avec une pompe en main en train de tuer des herbes. Ça me fait mal. Parce que je sais que c'est une terre que nous sommes en train de polluer en permanence. Vous en avez toujours qui n'arrivent pas encore à comprendre que l'agroécologie, c'est vraiment l'agriculture de demain. Il faut qu'on s'arrange pour que tout soit propre.
Yvelle, il y a eu ce bouleversement, donc il y a eu ce choc, il y a eu la naissance de votre fille, qui était donc allergique, et vous êtes dit, bon, je ne veux plus de ce monde, je ne veux plus de ce monde qui pollue nos enfants.
Oui.
Donc on va passer par l'assiette, la culture quand même agricole aussi que vous aviez. Mais aujourd'hui, de quoi êtes-vous heureuse avec tout ce travail que vous effectuez?
Déjà, je vais parler égoïstement, je suis déjà contente que ma fille s'en soit sortie. C'était mon objectif premier. Après, pour l'objectif que j'avais, que la Guadeloupe soit 100% bio, c'est pas gagné.
Non, mais pour voir le chemin, ce qui est important.
Oui, voilà. Oui, et en fait, non, j'y travaille, et je sais que c'est un travail de longue haleine.
Merci à vous deux de nous avoir présenté cet atelier de naissance.
Et vous savez que je veille au grain, monsieur.
Yvelle Attalis et sa mère, donc Ivana, sur Grande Terre à Mornao. Ça fait du bien. Et puis elle a un rire. C'est communicatif. Ben ouais, ça marche bien, ça. Et puis donc, ne loupez pas ce Terra Festival. Si vous êtes sur place, vous avez sur le site de CO2 Mon Amour les éléments pour regarder cela également. Frédéric Danhé, par association d'idées, le bio, la terre, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate qu'il y a un accaparement des terres, alors qui existe déjà de la part des Coréens, de la part des Chinois, lorsque l'on est... dans certains coins donc d'Afrique et d'ailleurs. Et vous parliez de cela déjà dans Cessons de ruiner notre sol, aux éditions Flammarion, qui raconte très très bien l'histoire de notre rapport au sol à tout niveau. Et là, on constate que dans l'Indre, 1700 hectares céréaliers sont passés sous pavillon chinois, qui se rajoutent, on va dire, aux 120 domaines viticoles bordelais qui sont déjà passés sous pavillon chinois.
Oui, il y a beaucoup de riziculture en Camargue qui appartient à des sociétés financières. Oui, c'est la société Hongyang de Hong Kong qui, comme vous le savez, est une société agricole, vu qu'elle fabrique et vend des équipements pour les stations-service, qui a donc acheté 1700 hectares de céréales. Cherchez le rapport, je ne l'ai pas trouvé. La SAFER, hein, qui est la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui a le rôle dévolu par l'État de surveiller les terres agricoles restent des terres agricoles et que l'anthropologie agricole français, qui est celui de petites exploitations, reste, ne soit pas modifié.
Et normalement, c'est pour avoir un soutien aussi pour installer les jeunes agriculteurs.
Absolument. Ça, c'est là, pas de peau, là, ça fait. Donc, est censé tout surveiller, tout voir, tout savoir, n'a rien vu, n'a rien pu surveiller. Pourquoi?
Parce que... Le tour de passe-passe, il est où?
Le tour de passe-passe, c'est que on a créé, pour acheter cette terre, une société par action et la loi n'autorise l'acheteur de la société a informé la SAFER que si 100% des actions, 100% des parts sociales ont été achetées. Il a suffi qu'une seule action soit restée entre les mains d'un fermier pour que la société chinoise n'ait pas eu à informer la SAFER. Moyennant quoi, comme vous savez, les Qataris achètent des terres à Madagascar, on commence à avoir des Chinois qui achètent des terres en France qui ne seront dévolues qu'à l'exportation. Ça arrive même chez nous.
D'accord. Donc ça veut dire que évolution du prix agricole, c'est en train de monter d'ailleurs pas mal. On est à 5 910 euros par hectare en France, 9 600 en Espagne, plus de 20 000.
C'est un placement pour les banques, les terres en France, parce que les terres sont chères, mais deux fois moins chères qu'en Allemagne, quatre fois moins chères qu'en Hollande. Donc c'est un terrain d'investissement, mais c'est un terrain d'investissement qui ne nous rapportera rien, vu que ça va être dévolu, évidemment, à l'exportation, comme dans un pays du tiers-monde.
Très bien. Et à côté de ça, on l'a dit, répété, la clé de résilience du réchauffement climatique, une des clés de résilience, c'est véritablement le sol.
Bah, ce sera les sols, sachant que les sols nous rendent plein de services qui nous coûtent très cher dès lors qu'on les perd et sachant qu'on manque véritablement en quantité et en qualité de terres agricoles en France. Ce qui est surtout dingue, c'est que les SAFER ne voient rien, c'est-à-dire qu'on peut tout acheter en France par un jeu de passe-passe. On peut, c'est un peu comme les Panama Papers, sauf que là, c'est du, là, c'est de la terre agricole, c'est une réalité physique.
Avec ou sans trompette, Armstrong.
I'll take the legs from some old table. I'll take the arms from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from a horse I'll take the head. I'll take the hands and face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from the dumb, dumb dummy than I ever got from you. Some legs, get me a chair, and a bottle too. Give me a horse, and give me some time. And baby, when I'm through, I'll take the legs from some old table. I'll take the arm from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from a horse, I'll take the hair. I'll take the hands and the face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from you. I get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from you. Yeah, mama, I get more loving from a dummy than I get from you.
Ouais, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur, Louis Armstrong, Dummy 100. Je vous ai parlé de viande. Ah, vous allez voir.
qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique. On a tout lu sur la diététique.
Olivier, ne te vante pas, vous avez lu quelques livres sur la diététique.
Non, maman, j'ai tout lu sur la diététique, tout.
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Mais c'est bien pour ça que Laurent Chevalier a sorti donc le livre Antitoxique de la grossesse, entre autres, hein, aux éditions Marabout. Alors Laurent Chevalier, d'abord bonjour à vous, et puis on va parler avec vous donc de viande reconstituée. Amis éleveurs, ne flippez pas tout de suite, n'envoyez pas des cailloux ni des pierres dans votre transistor où vous nous écoutiez. Vous allez voir ça, alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Laurent Chevalier ?
Bonjour Denis. Alors effectivement, c'est un petit peu de la provocation. Mais je voudrais souligner le fait que si on ne fait rien, dans la logique d'une espèce d'hyper-industrialisation de l'agriculture, comme par exemple pour les OGM, eh bien on nous prépare des choses assez horribles. Et parmi ce qu'on nous prépare, eh bien il y a ce qu'on appelle la viande in vitro. Alors qu'est-ce que c'est la viande in vitro ? Actuellement, on a un certain nombre de start-up, essentiellement aux États-Unis, mais également en Europe, qui arrivent à faire développer des cultures de cellules, à les faire ensuite se contracter, et tout ressemble, je dirais, d'une certaine manière, un peu à de la viande. En plus, les promoteurs de ce type de produits expliquent que, eh bien, pour la santé, c'est mieux puisqu'il n'y a pas de gras. Pour l'environnement, c'est mieux puisqu'on évite des gaz à effet de serre. On évite d'utiliser de l'eau. Donc, tout va être prêt pour que ces substituts de viande soient acceptés.
Alors, ça, c'est l'agro-business qui est derrière.
Tout l'agro-business est derrière. L'agro-business a détruit l'agriculture traditionnelle.
Totalement.
Pour une agriculture industrielle qui montre aujourd'hui ses limites. Et maintenant, eh bien, on va se passer des agriculteurs d'une certaine manière en faisant, par exemple, ce genre de produit. Alors, évidemment, il pourra toujours rester des steaks dans l'assiette, mais disons, de façon, on arrive, on voit poindre la façon dont ça va se passer. C'est-à-dire, par exemple, on va trouver ce genre de produit mélangé à de la vraie viande ou pas forcément, et qui va être mise par exemple dans des lasagnes, dans des boulettes de viande et dans tout un tas de plats préparés avec cette extrême onction, entre guillemets, de développer des facteurs dits environnementaux. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport
à ça. Et aujourd'hui, moi je rappelle qu'en ce qui concerne la provenance de ces viandes sur ces plats préparés, c'est une bagarre pour savoir d'où ça vient.
Absolument. L'agro-business, c'est, si vous voulez, des entreprises d'assemblage. Donc, ils veulent surtout pas dire d'où ça vient. Ils en prennent un peu partout, etc. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le modèle économique qu'il y a actuellement sur le plan alimentaire ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas ? Puisque la grande distribution veut des prix bas et les industriels, eh bien, ils veulent faire leurs bénéfices, ce qui peut se comprendre, mais il se fait au détriment de quoi ? De la qualité. Donc aujourd'hui, ce qui est beaucoup soigné, c'est l'emballage, c'est la façon d'être présenté, c'est le marketing. Or, vous ne pouvez pas faire de la qualité avec, disons, de la nourriture trop basse. Donc d'une part, eh bien, sur les productions françaises, les gens ne sont pas payés comme ils devraient l'être. Donc vous allez chercher ailleurs des produits de piètre qualité que vous allez mettre dans ces produits-là. Vous savez que par exemple, même en Chine, donc les Chinois sont souvent les premières victimes des turpitudes de certains types de commerce et de production, dès qu'ils ont un peu d'argent, eh bien ils s'orientent sur le plan alimentaire vers des produits qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Et donc les produits de piètre qualité, c'est pas un problème pour les Occidentaux puisqu'ils savent ensuite les emballer, ils savent bien les présenter. Donc je crois qu'il faut faire attention à toutes ces dérives que l'on a. Il faut bien entendu que l'on réagisse tous par rapport à ça. Donc ça va être plutôt sur des circuits courts. Il y a un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place petit à petit avec des circuits courts, avec le bio, avec les AMAP. Et c'est ça qu'il faut absolument arriver à favoriser de façon la plus générale possible.
Et vous avez d'ailleurs des éleveurs qui s'en sortent bien parce qu'ils sont sur ces circuits courts et bien sûr qu'ils font de la qualité.
Voilà, et exactement. Donc on s'aperçoit à terme que c'est payant. Oui. C'est-à-dire que effectivement les producteurs bio s'en sortent mieux que les autres globalement. Et effectivement sur des circuits courts, eh bien on arrive à beaucoup mieux maîtriser les choses et tout le monde est gagnant-gagnant. Donc on voit poindre un nouveau modèle économique qui arrive petit à petit. Bon, il reste encore le mastodonte de ce qu'on nous propose, mais ça ne pourra pas durer indéfiniment comme ça.
Là, on rentre, on va dire ça comme ça, mais un peu dans la nourriture Frankenstein, là, avec cette affaire.
Alors, on rentre un petit peu dans la nourriture Frankenstein, et je pense qu'il faut prendre garde à plusieurs aspects. Et par exemple, on a un développement aussi de culture hors sol, et on nous propose, alors, qui peut se concevoir parfois, mais pas de façon systématique. Aujourd'hui, en ville, on va nous proposer deux choses. D'une part, de mettre des containers avec la production de fraises hors sol.
De champignons, etc. Quoi, oui.
De champignons. Donc tout ça, ça peut croître avec des lumières comme la LED. Et puis on a un liquide nutritif qui passe. Et l'autre option, c'est d'utiliser les jardins publics, l'espace public aussi. Probablement, c'est bien mieux de faire comme ça, bien entendu, pour cultiver, donc ce qu'on appelait autrefois les jardins ouvriers, pour cultiver un certain nombre de produits. Et ça va très loin, puisque même en Angleterre, on arrive à produire des fruits et des légumes qui sont distribués ensuite gratuitement.
Les incroyables comestibles.
Les incroyables comestibles, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors évidemment, c'est marginal, mais il va falloir faire ce choix. Donc d'une part...
Les grandes bonnes idées, elles sont marginales au départ. Hein.
Absolument. Oui. Donc on a cette viande in vitro auquel il faut faire très attention. On a cette production hors sol, il faut absolument qu'il y ait des limites par rapport à ça. Et puis, on a aussi les faux fromages qui sont déjà en partie dans nos assiettes. C'est-à-dire un agglomérat de protéines, etc., qui ressemble à du fromage. Mmh. On donne un arôme de fromage et on trouve ça, eh bien, par exemple, sur certaines pizzas industrielles.
Oui. Mais ça coûte moins cher que du joint de fenêtre. Moi, j'ai utilisé, c'est très bien ça.
Ah, voilà. Et alors, la difficulté que l'on a, normalement, ça doit être indiqué quand il y en a, mais en fait, il le mélange à du vrai fromage. Oui, donc, si vous mettez 1% de vrai fromage et 99% de faux...
Ça suffit pour le marketing.
Ça suffit pour le marketing. Oui. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. On doit tous l'être pour empêcher le développement de ce type de produit, que ça reste... Alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que quand on pointe ça au niveau national ou au niveau européen, eh bien, c'est toujours la liberté d'entreprendre qui arrive, qui est mise en avant.
Et de fiche en l'air l'environnement et le social, etc.
Voilà.
Qui vont avec.
Et malheureusement, au niveau de l'Europe, c'est une des premières choses qu'avait dit Juncker, c'est qu'il ne fallait pas brider l'innovation au niveau des circuits économiques. Alors, quand c'est de l'innovation sur certaines choses, d'accord, même sur l'alimentaire, mais pas n'importe quoi. Et donc, on a toute une technologie qui arrive, qui est extrêmement inquiétante. Et effectivement, une partie de la nourriture sera une nourriture Frankenstein si on n'y prend pas garde. On l'a déjà vu en partie avec les OGM.
Merci beaucoup, cher Laurent Chevalier, donc pour ce coup de gueule, parce qu'en fait, c'en est un. Et puis, une fois de plus, bravo aux éleveurs qui à la fois entretiennent les paysages, nous fabriquent de la bonne viande. Voilà, donc après, c'est des questions de mesure, tout ça. Mais peu importe, vous arbitrez comme vous voulez. Mais de tout mettre à la poubelle, c'est pas possible non plus. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Quoi.
Absolument, il y a des initiatives extrêmement encourageante qu'il faut absolument soutenir.
Merci Laurent Chevalier. Et alors donc il y a cet ouvrage que Laurent Chevalier a sorti, livre antitoxique de la grossesse, c'est très bien. Hein. Puis même si vous n'êtes pas enceinte, c'est vraiment très très bien aux éditions Marabout. 01 56 40 40 35. Mais oui, ça s'appelle un message.
Bonjour à tous. Alors je sais que des pétitions vous envoyez passer, allez, 5, 10, 15 par jour, mais je vais vous parler d'une qu'il est particulièrement important de signer. Elle s'appelle Stop Plastic in the Sea. Elle a été déposée par l'association Expédition Med. C'est une ICE, une initiative citoyenne européenne. C'est la Commission européenne qui a mis en place ce dispositif de démocratie participative. Si 1 million de citoyens européens la signent, eh bien, elle devra prendre en compte nos propositions. Nous proposons 14 mesures pour limiter la production de déchets à la source, par exemple en réglementant les plastiques non biodégradables, non biosourcés, en interdisant les objets plastiques à usage unique jetables, ou encore par exemple en mettant en place un étiquetage qui permet aux consommateurs de s'y retrouver avec tous les produits plastiques qui l'entourent. Pour signer et pour comprendre de quoi il s'agit, une seule adresse, expeditionmed.eu, un seul message, Stop Plastic in the Sea. Merci.
Voilà, expeditionmed.eu, c'est bien noté. Et puis donc toujours au 01 56 40 40 35, un autre message, il y en a plein qui arrivent.
Bonjour, l'association Pousse d'Yvelines vise à implanter dans les Yvelines le réseau d'autostop organisé Réseau Pousse. Opérationnel en Midi-Pyrénées depuis 2012 et actuellement en pleine expansion, Réseau Pousse, R-O-Z-O, est un dispositif qui sécurise la pratique de l'autostop avec des conducteurs et des passagers identifiés et des arrêts repérés. Gratuit pour les utilisateurs, il permet aux collectivités adhérentes de proposer un mode de déplacement solidaire peu coûteux et complémentaire des transports en commun. Il est particulièrement adapté aux zones rurales peu desservies et aux zones périurbaines saturées. Pouzzivline regroupe désormais 12 communes et a vocation à s'étendre rapidement. Les inscriptions sont ouvertes à tous, à partir de 16 ans, dans les mairies des communes adhérentes ou sur réseaupouce.fr. Merci beaucoup.
Nous allons parler maintenant de nos amis les éoliennes avec vous Frédéric Danhé, donc toujours avec nous pour l'actualité. Nous avons quand même aujourd'hui 10, quels sont les chiffres précis donc pour les éoliennes qui sont installées et raccordées, puis celles qui sont en cours de raccordement.
Oui, il y a une petite polémique avec le Canard Enchaîné qui a mal lu certains chiffres. Donc le parc éolien raccordé 10 312 mégawatts, le parc éolien, en attente, c'est-à-dire au stade de projet ou de construction ou pas encore branché, c'est 10 748 mégawatts.
Alors l'actualité c'est ça, c'est parce qu'en fait le Canard Enchaîné avait sorti que la moitié de ces éoliennes n'étaient pas raccordées.
Non, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Ces éoliennes ne sont pas raccordées parce qu'elles sont à l'état de projet ou en construction. On peut supposer que certaines ne l'ont pas été pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, 10 plus 10, ça fait 20. Allez, on va dire, il y a 21 000 mégawatts qui seront fonctionnels incessamment sous peu. Ça va représenter 3,9% de notre production électrique. C'est 4 fois moins que ce qui se passe en Allemagne et 24% de la production électrique de toutes les ENR. C'est pas beaucoup, hein. Ça fait 21,1 TWh en France. TWh, milliers de milliards de TWh. Pour donner une idée, en Allemagne, c'est 4 fois plus. Ça représente 4,5% de l'électricité que nous consommons en France. Alors ça dépend des régions. En Alsace, c'est 11% de la consommation électrique qui nous vient.
Les grands gisements, c'est Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
Enfin, Hauts-de-France.
Pardon, Hauts-de-France.
Chez moi, c'est Hauts-de-France.
Oui,
maintenant,
c'est vrai que vous êtes chi Hauts-de-France.
Je suis chi. C'est Nord-Pas-de-Calais, puis c'est tout. Voilà. Le Grand Est, donc de la Champagne-Ardenne jusqu'à l'Alsace. Et ensuite, la dernière
région. Ont échappé à un nom ridicule. Hein. Ils ont gardé le Grand Est, c'est très bien.
Voilà.
Ça,
et puis sinon, donc c'est Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. C'est en Alsace donc que ce qu'on appelle le taux de couverture est le plus élevé, c'est-à-dire 11% de la consommation de l'éolien. Je donne un exemple, au Danemark, c'est 39% de l'électricité consommée qui vient des éoliennes, c'est 21% en Espagne, donc on est 13 ans retard.
Alors le offshore maintenant, donc 6000 mégawatts d'ici 2020, aujourd'hui on n'en a pas un seul d'installé. Sur 6 lieux, il y a le Tréport, il y a Fécamp, il y a Saint-Brieuc, il y a Yeux.
Il y a Courseul sur mer, Saint-Nazaire voilà. Aussi. Donc 6 sites qui ont repris un retard, mon cher Denis, un retard énorme. Donc c'est quoi, hein, pour donner une idée, c'est des mâts qui se font 126 mètres, une centaine de mètres, pardon. C'est des affaires qui pèsent des milliers de tonnes, qui nécessitent des ports particuliers avec 3 ports qui sont capables de faire ça. In fine, quand ces 6 sites seront installés, ça représentera à peine 2% de la consommation électrique. En fait, les industriels, les acteurs du marché, les acteurs portuaires et la logistique, pour eux, c'est très simple, il n'y en a pas assez. 1, on a pris trop de temps. 2, c'est pas avec 6 sites offshore qu'on va lancer une filière industrielle pérenne, qu'on va permettre d'assurer des emplois.
On a Alstom et Areva, donc deux...
Alstom, c'est General Electric maintenant.
Pardon, General Electric, c'est ça, oui. Et donc Areva qui construisent ces éoliennes.
Voilà, ça c'est déjà pas mal. Il y a une filière française justement qui est en gestation depuis ces projets, mais il leur faudrait 2 à 3 fois plus pour pouvoir être des acteurs mondiaux.
Et là, vous avez évidemment pas mal de gens qui sont à la fois écologistes mais qui sont contre les éoliennes offshore, parce que dans Baie-Saint-Brieuc, ils n'en veulent pas, du côté de Dieu, ils n'en veulent pas, etc.
Alors donc, qu'à l'horizon, ça se verrait à peine. Enfin bon, faut pas
chercher. Ils vont vous dire que vous habitez pas là, donc c'est ça.
Et oui, enfin, elles sont entre 20 et 50 km du rivage. Hein.
Bon, merci beaucoup Frédéric Danhé, vous répondrez au courriel. Et donc, on se retrouve nous la semaine prochaine. Merci à Lucas Vaillant, à Valentin Azan, Claire Destacan, à Xavier Pessugia qui a réalisé l'émission, à Thierry Dupin, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2, Mon Amour, et donc avec grand plaisir, ce sera la semaine prochaine. On est en train de concocter cette affaire-là. Je crois qu'il y aura un peu de Colombie, il y aura un peu de Lot, il y aura un peu de Nicaragua, vous voyez, donc on est en train de monter toute cette affaire. Donc CO2 Mon Amour, et puis l'atelier du Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h54, après Les Petits Bateaux, le podcast. Vous pouvez vous abonner au podcast de CO2, vous le savez.